Chers auditeurs de Radio Maria, aujourd'hui dans l'émission Écologie et Alimentation, nous allons prononcer deux mots qui font peur, surtout lorsqu'on attend les résultats d'un bilan sanguin. J'ai nommé cholestérol et triglycérides. Pour en parler, nous retrouvons le docteur Jean-Pierre Française. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Sandra et bonjour chers auditeurs. Heureux de vous retrouver en ce début d'année automnale. Donc je vais intervenir cette année avec Clara Samé qui est diététicienne en région parisienne. Et aujourd'hui, je vais donc préciser les conséquences de l'utilisation des lipides apportés par notre nourriture et notre propre synthèse dans le foie. Donc principalement donc de deux lipides, cholestérol et acides gras issus des triglycérides. Alors pourquoi ce thème? Car ici en Occident, collectivement, nous avons sûrement des efforts de sobriété alimentaire à faire, sobriété heureuse en tant que chrétien. Quand on consomme trop de cholestérol, d'acides gras saturés, d'acides gras dits trans, ce sont nos artères qui s'encrassent. Saturés, trans, je préciserai ces termes. Alors manger trop gras fait partie d'une alimentation déséquilibrée comme manger trop sucré. Le déséquilibre, c'est aussi manger trop salé avec son risque d'hypertension artérielle et ses propres conséquences. D'autres facteurs d'une alimentation déséquilibrée, comme une activité physique insuffisante, le non-respect des temps de repas, seront détaillés par Clara Samé avec les aspects pratiques, notamment d'un régime anti-cholestérol. Manger trop gras et ou trop sucré aboutit au surpoids, voire à l'obésité. La méthode la plus connue pour calculer notre poids est l'indice de masse corporelle, IMC. Si l'IMC est entre 25 et 29,9, on est en surpoids. Exemple, un IMC à 25, c'est un adulte de 68 kg pour 1,65 m. À partir d'un IMC à 30, on est obèse. Selon l'enquête de 2021 de la Ligue contre l'obésité, il y a plus de 8 millions d'adultes en France touchés par l'obésité, soit 17%, alors qu'en 2012, il y avait 2% en moins. Par ailleurs, 30% des adultes sont en surpoids. Donc au total, donc 47% des Français sont touchés par un surpoids ou de l'obésité, tous deux préjudiciables. Cela atteint même les jeunes. Chez les 18-25 ans, le pourcentage d'obésité est passé de 5 à 9% en une dizaine d'années et un tiers des enfants de 2 à 8 ans est en surpoids ou obèse. En pratique, on peut obtenir notre IMC en se rendant sur le site imc.fr, en mentionnant taille et poids, et un calcul automatique se fait. Autre signe d'alerte, c'est un tour de taille excessif au niveau de l'ombilic. Nous préciserons ce point plus tard. Alors, quelle est la part des lipides dans notre apport calorique? Elle doit être de l'ordre de 35 à 40% de notre apport total. Ce pourcentage assure la couverture de nos besoins en lipides indispensables. Au-delà de ce pourcentage, c'est délétère pour notre système cardiovasculaire. La limite haute de ce pourcentage est dépassée en France par 43% des adultes et un tiers des enfants selon le dernier avis de l'agence sanitaire en 2021. Alors, quels sont les lipides dans notre organisme? Il y a ceux absorbés avec les aliments et ceux synthétisés par le foie. Alors, retenons déjà ceci. Des explications sur notre utilisation de ces deux sources de lipides vont être utiles pour comprendre les enjeux de santé qu'ils engendrent. Alors, les lipides d'origine alimentaire, les deux classes principales que je vais décrire donc, triglycérides et cholestérol, sont d'origine végétale et animale. Parmi les graisses d'origine végétale, on distingue les huiles liquides, celles de nos assaisonnements ou cuissons, les huiles solides, palme, copra, dites de coco. Les graisses animales se trouvent dans la crème fraîche, le beurre, les fromages, les viandes et leurs graisses ou dans les poissons. 95% des graisses alimentaires sont ingérées sous forme de 100 à 150 g par jour de triglycérides. Ces triglycérides forment une structure en forme de fourchette, comportant un monoglycéride et trois branches des acides gras. Il s'agit de trois types d'acides gras. Retenons bien ça. Les acides gras saturés, dont certains sont nocifs s'ils sont en excès. Les acides gras monoinsaturés, bénéfiques, comme l'acide oléique de l'huile d'olive. Et ceux polyinsaturés, majoritairement bénéfiques, comme les oméga-3. Retenons d'emblée la nocivité potentielle des acides gras saturés. Alors, parmi les 5% restants des graisses apportées par l'alimentation, figure en particulier 0,2 à 0,8 g de cholestérol, ce qui est très peu par rapport aux triglycérides. Ce cholestérol absorbé en excès peut nous être aussi préjudiciable si l'on a une prédisposition à mal l'épurer. Les lipides sont aussi essentiels que les protéines et les glucides car ils apportent des calories qui contribuent à nos besoins d'énergie et aussi de quoi structurer et faire fonctionner nos cellules. C'est 1 g de lipides qui produit le plus de calories, 9 calories, alors que 1 g de protéines ou 1 g de glucides, les sucres, produisent 4 calories. Si notre corps n'a pas besoin de toutes ces calories, ce sont des lipides qui seront stockés dans le tissu adipeux. Attention, danger. Cependant, nous avons besoin, et ça c'est à retenir, d'aliments contenant triglycérides et cholestérol en quantité contrôlée. Ces deux lipides, quelques heures après un repas, sont pratiquement utilisés dans nos tissus. Et heureusement, il existe une synthèse hépatique de ces deux lipides pour maintenir des taux utiles de cholestérol et triglycérides dans notre sang. Alors, quel est le devenir de triglycérides et cholestérol d'origine alimentaire? Les triglycérides sont solubilisés dans l'intestin par la bile, absorbés par des cellules de l'intestin grêle, puis transportés dans le sang par les chylomicrons, qui sont des corps chimiques complexes. Le cholestérol alimentaire, quant à lui, a le même cheminement et s'agrège aussi dans les chylomicrons. Les chylomicrons sont en fait des lipoprotéines constituées de beaucoup de triglycérides et d'un peu de cholestérol, ainsi que de protéines. Ces protéines fabriquées dans le foie sont appelées apoprotéines et facilitent la stabilité de toutes les lipoprotéines, dont les chylomicrons, parce qu'il y a plusieurs lipoprotéines. La plupart des chylomicrons passent d'abord dans des vaisseaux sanguins avant d'entrer dans la circulation sanguine. Les triglycérides hébergés par les chylomicrons ont globalement 3 destinées tissulaires périphériques principales, soit stockées en triglycérides de réserve dans le tissu adipeux utilisable en période de jeûne, soit dégradées en acides gras dans les muscles et utilisées comme source d'énergie immédiate. 1 gramme, on l'a vu, c'est 9 calories. Troisième destinée finale, ces chylomicrons amoindris en triglycérides constituent alors des lipoprotéines dites remnants de chylomicrons. Remnants, c'est un mot en anglais voulant dire résidu. Donc ces remnants pouvant, s'ils sont en excès et composés d'acides gras saturés, avoir un effet négatif sur nos artères. Quant au cholestérol alimentaire transporté avec les chylomicrons, il a une utilisation tissulaire spécifique différente de celle des triglycérides. Je vais le détailler plus bas. Alors, de ses origines alimentaires, retenons ceci. Réduire l'apport alimentaire en cholestérol triglycérides peut réduire le taux sanguin de cholestérol et triglycérides et réduire l'effet négatif de leurs excès sur nos artères. Alors, passons à la synthèse par le foie de ces deux lipides. C'est une voie qui permet une production continue entre les repas. Alors, pour ce qui est des triglycérides, il y a une production permanente qui est accrue en cas de consommation d'alcool et ou de sucre en excès, et donc à l'inverse, diminuée si l'alcool est supprimé et la quantité de sucre réduite. Alors, les triglycérides synthétisés par le foie sont véhiculés dans le sang dans d'autres lipoprotéines, des VLDL, sigle signifiant en anglais lipoprotéines de très basse densité. Les acides gras qui constituent ces triglycérides ont la même destinée que les acides gras issus des triglycérides alimentaires. Donc on l'a vu au niveau du tissu adipeux, des muscles. Alors après la captation d'acides gras par les tissus, les lipoprotéines VLDL contenant encore certains triglycérides et leurs acides gras vont devenir des lipoprotéines moins denses, elles aussi qui s'appellent des remnants de VLDL, se transformant en LDL en dominance de triglycérides. LDL, sigle qui signifie lipoprotéine de basse densité. Alors retenons ceci, c'est la réduction d'excès alimentaire en alcool, sucre ou apport calorique global qui va améliorer l'effet négatif sur nos artères d'un excès de ces LDL riches en triglycérides dans le sang, surtout des LDL qui seraient riches en acides gras saturés. Voilà, qui constituait des triglycérides. Alors, la synthèse par le foie de cholestérol. Le foie synthétise 0,8 g de cholestérol. C'est plus que donc, ce qu'il en reçoit par l'alimentation. La plus grande partie du cholestérol hépatique qui n'est pas utilisée pour faire de la bile, c'est une partie qui est utilisés pour faire de la bile, va s'agréger aussi dans des LDL, mais dites riches en cholestérol, qui circulent dans le sang. Alors, dans les tissus, qu'est-ce que ça donne? Beaucoup de cholestérol, qu'il soit d'origine alimentaire sous forme de chylomicron ou hépatique sous forme de LDL, est utilisé pour constituer les membranes des cellules de différents tissus, pour être un précurseur d'hormones comme la cortisone, les œstrogènes, la testostérone, et enfin un précurseur de la vitamine D. La partie restante de cholestérol sous forme de LDL, qui contient beaucoup d'apoprotéine B, se fixe dans de nombreux tissus, à la surface interne des artères de toute taille, par exemple les artères destinées au cerveau, à la rétine, au myocarde, aux membres, aux reins. Alors retenons ceci. Cet accès à la paroi des artères a un rôle bénéfique. Par contre, en cas d'excès d'apport en cholestérol, surtout si l'on a une prédisposition génétique, du cholestérol se dépose de manière excessive dans la paroi artérielle, formant une plaque d'athérome. C'est un processus athérogène dit d'athérosclérose. L'augmentation et le changement avec les années de la composition de la plaque d'athérome peuvent atteindre un point critique, entraînant la rupture d'une plaque avec formation de caillots qui obstruent le flux sanguin, pouvant entraîner différents accidents par mauvaise irrigation de tissus. C'est l'hérésie de poitrine, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. J'ai abordé le rôle nourricier des LDL. Quel est le rôle des HDL, autres lipoprotéines circulant dans le sang? HDL, c'est un sigle en anglais signifiant lipoprotéine à haute densité. Alors retenons ceci. Détailler le devenir des particules LDL, cholestérol, comme des particules HDL, cholestérol, sont utiles car elles sont dosables dans le sang et leur taux participe à l'évaluation de notre risque d'accident cardiovasculaire. Alors quels sont le rôle des HDL? Les HDL, qu'on appelle aussi HDL cholestérol, sont sécrétés par le foie et leur rôle est épurateur. En parcourant la circulation sanguine, ces HDL contenant beaucoup d'apoprotéines A1, vous verrez pourquoi je vous dis ça, vont s'enrichir en cholestérol non utilisé dans les tissus périphériques. Elles constituent l'HDL cholestérol. Alors à l'inverse de l'excès préjudiciable du LDL cholestérol, plusieurs études ont démontré que plus les sujets ont un taux fort d'HDL cholestérol, moins ils sont atteints par des maladies cardiovasculaires, suggérant une action protectrice, cardioprotectrice, d'un taux fort d'HDL cholestérol. On peut aussi avoir une prédisposition familiale à avoir un taux fort d'HDL cholestérol, tant mieux. Alors pourquoi les lipoprotéines HDL ont un pouvoir protecteur? Pour l'exprimer simplement, ces HDL récupèrent le cholestérol en excès au niveau des artères et des organes, le transportent vers le foie où il sera utilisé, assurant ainsi le nettoyage des vaisseaux sanguins en limitant les dépôts de cholestérol. L'HDL cholestérol est donc bien le bon cholestérol. Alors, chapitre suivant, le dosage dans le sang de tous ces constituants et l'évaluation du risque cardiovasculaire. Alors, en pratique courante, on mesure à jeun depuis 12 heures, cholestérol total, mais aussi les particules LDL et HDL cholestérol, ainsi que les triglycérides totaux. Il est prudent d'ajouter le dosage de la glycémie, voire de l'hémoglobine A1C, pour en parler, en cas d'obésité, pour dépister un diabète latent. Alors, le HDL dans notre sang est le plus souvent calculé à l'aide d'une formule mathématique prenant en compte le taux de cholestérol total, d'HDL et de triglycérides. Mais quand les triglycérides sont supérieurs à 3,50 g, voire 4 g par litre, c'est un taux qui est plus de deux fois et demi le taux normal triglycéride, donc ce n'est pas souvent, le LDL cholestérol doit être mesuré directement pour être fiable. Mais cette mesure est plus délicate et onéreuse, c'est pourquoi elle n'est faite qu'à bon escient. Alors, l'évaluation du risque du niveau de risque cardiovasculaire constitue le préalable indispensable à la prise en compte du risque d'une alimentation trop riche en lipides. Le risque cardiovasculaire est évalué par le diagramme SCORE, tiré des recommandations européennes de 2019, qui évalue le pourcentage de risque de mortalité dû à une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années par accident coronarien, artériel, périphérique ou cérébral. Ces recommandations sont plus sévères que celles de 2016. Alors, ce pourcentage de risque est qualifié de bas quand il est inférieur à 1%, modéré entre 2 et 5%, à haut risque entre 5 et 10%, à très haut risque si supérieur à 10%. Ce risque, on le voit, n'est donc jamais de toute façon nul. Ce risque est modulé selon plusieurs facteurs de risque. Le sexe masculin est plus à risque que le sexe féminin, le caractère fumeur ou non, le chiffre de tension artérielle systolique entre 12 et 18, systolique c'est le premier chiffre, l'âge du sujet, entre 40 et 70 ans, le taux de cholestérol total et le taux d'HDL cholestérol. Alors, sans rentrer dans les détails, par exemple, quand l'HDL cholestérol est bas, inférieur à 0,40 g par litre, le risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans est majoré d'au moins 1%. Et quand il est élevé, supérieur à 0,60, il est minoré d'au moins 1% par rapport au risque calculé avec les autres paramètres. Alors, l'échelle des risques faibles, modérés, peut, en fonction de notre âge, paraître non significatif et nous inciter à l'attentisme. De toute manière, quel que soit le risque, il est conseillé d'être encadré par des professionnels de santé. Si le risque est considéré par le médecin comme significatif, un régime bien piloté doit être proposé sur quelques mois. Même s'il n'y a pas de recommandation spécifiquement française, pour des raisons que je n'expliquerai pas forcément, il est à peu près reconnu qu'un régime est proposé si le LDL est supérieur à 1,90 avec un risque faible, avec un LDL supérieur à 1,30 si c'est un risque modéré, 1 g si c'est à haut risque et 0,70 de LDL si c'est à très haut risque. Donc au-delà de ces chiffres, il faut vraiment proposer un régime. Et d'ailleurs, dans les hauts risques et très hauts risques, pratiquement rapidement, on arrive aux médicaments. Alors, il faut retenir ceci. Les apports alimentaires limités en cholestérol réduisent son absorption intestinale et font baisser notre cholestérol sanguin. Mais en cas de trouble important de l'utilisation de cholestérol, qui est une forme familiale ou non, le régime peut ne pas suffire. Il faudra employer des médicaments très efficaces, car certains agissent sur la synthèse hépatique de le cholestérol, les statines qui sont très connues, et d'autres sur l'absorption du cholestérol. Alors, dans les cas les plus récalcitrants d'excès de LDL cholestérol et d'une pathologie artérielle en cours, le spécialiste peut proposer les deux types de médicaments, sans parler des anticorps monoclonaux qui sont très récents. Alors, pour ce qui est du régime, Clara Samé le détaillera le mois prochain. Alors, il est certain que souvent, en l'absence d'antécédents familiaux ou personnels, il est difficile d'admettre pour un sujet ayant un taux de LDL trop élevé de faire des efforts de réduction de certains lipides, de restriction calorique s'il y a surpoids. Globalement, les hommes sont surtout ceux qui aiment inconditionnellement les bons repas, ont plus de difficultés à adhérer à des conseils avisés. C'est préjudiciable car à facteur de risque identique, le pourcentage de risque de mortalité cardiovasculaire est plus fort chez les hommes. La variété des situations est telle qu'il nous faut ici simplifier. Le véritable enjeu se passe dans les cabinets médicaux et de diététique. Parfois, le spécialiste, pour appuyer son diagnostic, en particulier devant un patient hésitant ou des dosages anachroniques, proposera un dosage sanguin de 2 apoprotéines qui permet d'évaluer sous un autre angle notre stock de LDL cholestérol en dosant l'ApoB pour ce qui est de LDL cholestérol, et notre stock d'HDL sera évalué sous un autre angle en dosant l'apoprotéine A1. Voilà, ApoB et ApoA1. Oui, donc on a vu que l'on dose dans le sang le taux de triglycérides, mais pas spécifiquement les acides gras qui entrent dans la composition des triglycérides, car ils sont plus difficiles à doser en pratique courante et l'on se contente du dosage des triglycérides. Mais il va être intéressant de détailler un peu ce que sont ces acides gras saturés, donc qui sont un fruit du métabolisme des triglycérides. Alors, au niveau... Donc, ils sont donc apportés par l'alimentation et par synthèse hépatique, hein, puisqu'ils sont constitués de... ils sont constitutifs des triglycérides. Ces acides gras sont caractérisés par leur nombre d'atomes de carbone et la présence ou non de double liaison. On en trouve ainsi trois types, on l'a évoqué en tout début d'émission. Les acides gras saturés, saturés en hydrogène et ne comportent pas de double liaison. D'ailleurs, retenons que le mot saturé peut nous évoquer ça sature et bouche les artères. Alors, les acides gras monoinsaturés, ils ont une double liaison. Et les acides gras polyinsaturés, plusieurs doubles liaisons. Bon, ça, c'est un trait biochimique. Retenons ceci. Au-delà de leur composition, ces acides gras n'ont pas le même rôle. Or, tous les aliments que l'on ingère contiennent peu ou prou des proportions variables de ces trois types, ce qui va compliquer nos conseils alimentaires. Alors, les acides gras saturés, donc leur origine double, on a vu, alimentaire et hépatique, ils ne constituent aussi pas une famille homogène, car ils ont des origines, métabolismes et fonctions différentes. Alors, ceux à chaîne courte et moyenne, et puis après on verra ceux à chaîne longue. Donc, ceux à chaîne courte et moyenne comportent 4 à 10 atomes de carbone, et leur consommation n'entraîne pas de risque coronarien, selon les conclusions de l'étude sur 22 années de deux cohortes, de plus de 40 000 professionnels de santé américains chacune. Alors, je vais prendre l'exemple du plus court de ces acides gras saturés, l'acide butyrique. Une part de cet acide butyrique vient en premier du beurre, puis de certains fromages. Et une autre partie, il faut trouver dans notre corps, mais vient de la fermentation des fibres alimentaires, qui sont des sucres complexes et non pas des lipides. Ces fibres arrivent dans le gros intestin, non digérées, sont attaquées par des bactéries spécifiques pour former de l'acide butyrique. Cet acide butyrique est utile à la bonne marche des cellules du côlon et le reste va être utilisé donc dans le foie. Alors les acides gras saturés longs qui ont 12 à 18 atomes de carbone. Ils ont aussi des spécificités, ils sont 4 et il faut dissocier 3 par rapport au 4e. Les trois peuvent augmenter le risque cardiovasculaire. Ils sont dits athérogènes, hein, donc ils donnent de l'athérosclérose, parce qu'ils sont consommés en excès. Il s'agit de l'acide laurique, de l'acide myristique et de l'acide palmitique. Palmitique, ça évoque palme, donc on parlera d'huile de palme. À partir du long suivi des 80 000 professionnels de santé cités plus haut, il existait bien une relation entre forte consommation de ces trois acides gras saturés athérogènes et l'incidence des événements sur les artères coronaires. Alors, je vais plutôt m'attarder sur l'acide palmitique. Il a 16 atomes de carbone, c'est le plus abondant des acides gras alimentaires. Il existe dans des produits d'origine animale et végétale. Chez les adultes, selon une enquête alimentaire française publiée en 2015, les deux plus forts contributeurs en acide palmitique sont le fromage, le beurre, viennent ensuite la charcuterie, la viande et pâtisserie. Alors si le beurre ou la charcuterie riches en acides palmitiques sont des aliments bien identifiés, d'autres lipides encore plus riches en acides palmitiques sont masqués dans des plats préparés proposés par l'industrie agroalimentaire pour des produits prêts à l'emploi. Il s'agit d'huiles non fluides bon marché comme l'huile de palme, l'huile de coco. La tendance à utiliser ces huiles diminue avec la pression des associations de consommateurs alertées par médecins et diététiciennes. L'huile de palme, extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile, est l'aliment qui contient le plus et de loin de l'acide palmitique, plus de 43 grammes pour 100 grammes de produit, loin devant le beurre, pratiquement deux fois plus ce qu'il est. Le beurre, c'est 25 grammes. Après, il y a les graisses de canard, la graisse de poulet, le lard cru, etc. L'huile de palme est utilisée dans les produits transformés, car peu cher, et maintenant bien la solidité des produits. C'est pareil pour l'huile de copra, extraite de l'amande de la noix de coco, appelée aussi huile de coco. Il est utilisé dans la fabrication de certaines margarines, utilisé parfois pure comme huile de friture. Cette huile de coco est très riche aussi en acide laurique, qui avec l'acide palmitique, un des trois acides gras saturés hétérogènes. Alors idem aussi pour une troisième huile qui s'appelle l'huile de palmiste, et non de palme, hein, huile de palmiste, qui est extraite, elle, des graines du même palmier à l'huile qui donne de l'huile de palme. On peut dire que ces deux huiles de coco et de palmiste contiennent 70 g pour 100 g des trois acides gras hétérogènes, alors que l'huile de palme, c'est que 49 g. Donc toutes ces raisons font qu'il vaut mieux exclure de notre alimentation ces produits de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire huile de palme, huile de coco, huile de palmiste. Alors, retenir ceci. Pour les acides lauriques, myristiques, palmitiques qui sont donc hétérogènes, dans l'enquête alimentaire de 2017, les adultes interrogés avaient dépassé le taux maximal autorisé de 8% de l'apport énergétique total recommandé par les autorités sanitaires. Alors le quatrième acide gras saturé, c'est l'acide stéarique qui a 18 atomes de carbone. Il aurait un effet neutre sur le plan cardiovasculaire, selon l'avis du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Savoir que le beurre classique est un des aliments qui en est le plus riche serait-il donc une bonne nouvelle? Hélas, il est aussi un des plus riches dans les trois acides gras hétérogènes qu'on vient de voir, laurique, myristique, palmitique, cités plus haut, ce qui entraîne sa restriction dans les régimes où le risque cardiovasculaire le justifie. Alors maintenant, passons aux acides gras monoinsaturés. Ils ne doivent pas dépasser 15 à 20% de notre apport calorique, soit la moitié des apports de lipides en gros. Ils sont très représentés dans l'huile d'olive et de colza que nous utilisons dans nos assaisonnements. 95% des acides gras monoinsaturés contenus dans l'huile d'olive sont de l'acide oléique. Alors déjà en 2017, lors d'une enquête chez des adultes français, le principal contributeur était l'acide oléique. Était l'huile d'olive. Les autres contributeurs principaux, qui sont tous des aliments qui contiennent des taux significatifs ou importants d'acides gras hétérogènes, comme le beurre, donc moins intéressant que l'huile d'olive. Alors en quoi les graisses monoinsaturées sont-elles utiles? Comme l'a rappelé le professeur Monnier, qui est un endocrinologue à Montpellier, dans un article scientifique paru en 2020, les graisses monoinsaturées, représentées principalement par l'acide oléique, ont des propriétés anti-hétérogènes, anti-caillots, et ont un effet bénéfique, certes modeste, de baisse des triglycérides, du LDL cholestérol, avec augmentation du HDL. Alors retenons ceci. Ces propriétés sont particulièrement utiles dans des pathologies où il y a fréquemment trop de triglycérides, de LDL et pas assez de HDL, comme chez bien des diabétiques de type 2, type 2 c'est avec surpoids, et des obèses dits de type androïde. Ces derniers ont une répartition androïde de la graisse accumulée au niveau de la partie supérieure du corps et de l'abdomen, marquée par un tour de taille au niveau de l'ombilique, supérieur à 102 cm chez l'homme et 94 cm chez la femme. Alors la consommation d'huile d'olive ou d'autres acides gras monoinsaturés, l'apport en acide oléique, ont été évalués dans 32 cohortes, rassemblant les 800 000 sujets de ces études dans ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors retenons ceci. Si on se base sur ces résultats, l'huile d'olive, parmi les aliments contenant des acides gras monoinsaturés, aurait des effets bénéfiques. Mais à condition que l'apport calorique qu'elle apporte remplace une même quantité d'acides gras saturés comme le beurre par exemple. Car si on rajoute de l'huile d'olive à une ration calorique déjà maximale, la prise de poids en annulerait le bénéfice. Alors, les acides gras polyinsaturés, il en existe deux types. Ceux qui ont une forme chimique dite trans et ceux qui ont une forme chimique cis. Alors, parlons d'abord des trans qui sont minoritaires. Alors, premier, il y en a deux types. Le premier type, c'est l'hydrogénation industrielle des huiles de palme, de coco, de palmiste, faite par l'industrie alimentaire, agroalimentaire, pour rendre pizza, quiche, plats préparés, soupe déshydratée, en cas salé, biscuits sucrés barres chocolatées, pâtes à tarte, n'en jetez plus, moins friables et avec une conservation plus longue, sans devenir rance. Mais tout ceci a des inconvénients qui ont été progressivement connus. Ainsi, 30% de leurs acides gras saturés 6 sont transformés en acides gras trans. Or, des études ont montré qu'une consommation excessive d'acides gras trans était associée à une augmentation du risque cardiovasculaire et de la prévalence du cancer du sein. Alors, dès 2005, l'agence sanitaire, qui était à l'époque l'AFSA, avait déjà fixé un seuil maximal d'apport en acides gras trans à 2% de notre apport énergétique. Mais par contre, depuis, l'Union européenne compte interdire totalement ces huiles hydrogénées à partir de 2023. Alors retenons ceci. Il nous faut fuir les emballages, les aliments où il est noté sur l'emballage le terme huile de palme, huile de coco, huile de palmiste, tout comme quand c'est masqué dans un nom générique comme huile végétale hydrogénée ou huile végétale partiellement hydrogénée, car donc elles contiennent beaucoup d'acides gras trans. Donc ça, retenez bien ça, je pense que c'est utile de retenir ça. Retenons enfin que lors de l'utilisation domestique d'huile végétale classique comme l'huile d'olive, à trop haute température, si on laisse fumer ces huiles, il y a des acides gras trans qui peuvent apparaître. Alors donc ça, c'est pas malin. Deuxième type d'acides gras trans, ne présentant pas de danger pour la santé, selon les dernières évaluations, les trans produits naturellement en très faible quantité par les animaux ruminants grâce à des bactéries de leur estomac. On les retrouve dans leur lait et viande, comme le vache et chèvre. Alors les acides gras sous forme 6 sont très majoritaires et comprennent principalement deux familles bien connues, les oméga-3 et les oméga-6, c'est la grande mode. Tous deux, certes en petite quantité dans notre organisme, sont dits indispensables car ils ne sont pas synthétisés par l'être humain et doivent être apportés par l'alimentation, idéalement dans un rapport à ne pas dépasser de 4 oméga-6 pour 1 oméga-3. Alors, les oméga-3, retenir ceci, c'est que leurs effets sur la santé sont intéressants. En effet, ils sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau, du système nerveux. Et il y a donc nécessité d'avoir des apports suffisants chez la femme enceinte, allaitante ainsi que chez l'enfant. A l'inverse aussi chez l'adulte, leur déficit peut augmenter le risque au niveau de la rétine de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Macula, c'est une zone de la rétine. Sur le plan cardiovasculaire, leur consommation favorise une diminution des triglycérides dans le sang, une diminution modeste de la pression artérielle chez les hypertendus, et une réduction de la mortalité cardiovasculaire chez les malades qui présentent déjà des pathologies cardiovasculaires. Mais ça ne réduit pas d'ailleurs la mortalité cardiovasculaire chez les gens qui n'ont qu'une pathologie en cours. Alors c'est quoi exactement ces oméga-3 ? Leur précurseur est l'acide alpha-linolénique. Et on le retrouve surtout dans des végétaux. Dans les noix, les graines de lin brun ou autre, ou lin blond par exemple, les graines de chia, c'est à la mode, les huiles de noix ou de colza. A noter que pour ces huiles, elles ne supportent pas le chauffage intense et doivent être utilisées qu'en assaisonnement. Alors, au vu de cette courte liste, il y a peu d'aliments riches en ces précurseurs, mais nos besoins ne sont que de 2,2 g de ce précurseur, qui est apporté, détail, par à peine plus qu'une cuillère à soupe d'une huile de noix ou 6 cerneaux de noix. Donc on peut facilement avoir une part intéressante en oméga-3, mais à condition de ne pas avoir trop d'oméga-6, on verra ça tout à l'heure. Il existe une conversion aussi de ce précurseur en deux dérivés, liés à longue chaîne, l'EPA et le DHA. Cette conversion est trop faible pour couvrir nos besoins en EPA et DHA à partir des végétaux. Et heureusement, on trouve dans la nature, pour nous alimenter, EPA et DHA dans des poissons de mer. J'avais fait une émission là-dessus. Donc par exemple, les anchois, harengs, maquereaux, saumon, sardines, thon. Ou pour ce qui est d'un poisson d'eau douce, dans la truite arc-en-ciel. Donc on doit aussi choisir une part par semaine de ces poissons en alternant les variétés. Donc ces deux oméga-3, EPA et DHA, joue un rôle dans le fonctionnement cérébral de l'adulte et aurait un effet positif sur le maintien de la santé mentale. Alors les oméga-6, c'est quoi exactement? Le précurseur est l'acide linoléique, et non pas lénique. Voilà. Alors, pourquoi les Occidentaux mangent souvent trop d'oméga-6? Souvent, dans notre alimentation, on a un rapport à 10 au lieu de 4. À cause de la trop importante consommation de plusieurs types d'aliments. D'abord, des huiles végétales riches en oméga-6, comme le tournesol, pépins de raisin, mais aussi arachides, maïs, voire soja. Ou la consommation de viande à partir d'animaux nourris maintenant avec du maïs et des tourteaux de soja, qui sont riches en oméga-6 et qui ont progressivement remplacé l'herbe traditionnelle, la luzerne, qui était riche en oméga-3, tout ça depuis une trentaine d'années. Pareil, la trop grande consommation de produits transformés industriels contenant de l'huile de palme, puisque dans l'huile de palme, le rapport oméga-6 sur oméga-3 est de 44, hein, alors que c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui... oui, puisqu'on devrait avoir un rapport à 4. Et un rapport de 18 dans l'huile de coco. C'est aussi la trop grande consommation de graines à la mode, à l'apéritif ou sur certains pains fantaisistes, on ne pense pas trop à ça. Par ordre décroissant de rapport oméga-6 sur oméga-3 trop élevé, qui va de 400 à 21 d'ailleurs, il y a les noix du Brésil, les pignons de pin, les cacahuètes, les graines de pavot, noix de cajou, sésame et noix de pécan. Sésame qui est à la fête en ce moment. Dans le même temps, la consommation de poissons riches en oméga-3 a nettement diminué. Donc, voilà. Donc, retenir ceci. Apporter trop d'oméga-6 par rapport à des oméga-3 au-delà d'un rapport idéal de 4 pour 1 fait pencher la balance vers une production dans l'organisme de corps chimiques d'aval favorisant un état d'inflammation chronique, dite silencieuse, mais pouvant déboucher sur des pathologies inflammatoires, tout en empêchant les oméga-3 de tenir leur rôle de protection cardiovasculaire. Donc, ils sont pas en quantité, c'est pas très important, les oméga-3, les oméga-6, mais en importance sanitaire, par contre, c'est important. Alors, dernier point à retenir pour améliorer notre apport en oméga-3, privilégier en assaisonnement les huiles de colza et noix, les cuissons vapeur préférées même aux cuissons huile d'olive, et les produits aussi, alors ça c'est intéressant, des filières animales bleu-blanc-cœur, enrichies en oméga-3 que l'on peut trouver dans des fromages, des œufs de poule, des viandes de bœuf, porc, volaille, dont poulet et dinde, les agneaux, les lapins. Tout ça, vous pouvez voir ça sur le site produitsbleublanqueur.org. Bon, en sachant que, par exemple, il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, dont, par exemple, le bœuf et le porc. Il vaut mieux, par exemple, privilégier les volailles, poulet, dinde, agneau, lapin que bœuf, porc. Voilà, ça c'est pas pour des raisons de lipides, mais pour des raisons de risque cancérigène. Voilà, alors ces produits donc de la filière animale bleu-blanc-cœur apportent davantage d'oméga-3, moins d'oméga-6 et d'acides gras saturés, grâce au fait que ces animaux consomment plus d'herbes pâturées, de luzerne, de compléments alimentaires, à base de graines de lin, de tourteaux de soja. Alors en conclusion, on peut retenir que par jour, nous ne mangeons pas assez de fibres, alors que cela contribue à moins absorber de cholestérol et de sucre. Nous mangeons souvent trop de calories sans les dépenser par une activité physique. Nous mangeons souvent trop de matières grasses, surtout des saturés et des aliments riches en cholestérol. Et attention si l'on a une prédisposition personnelle ou familiale à mal épurer le cholestérol. Et enfin, nous mangeons trop d'acides gras oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Le problème, c'est que sur les étiquettes alimentaires, ne sont mentionnés que le total en lipides, désigné matière grasse totale, et la proportion en acides gras saturés, sans mention des présences de cholestérol et d'autres acides gras comme les monoinsaturés ou les oméga. Savez-vous, par exemple, que dans nos huiles d'assaisonnement, il y a 100% de lipides et pas du tout de cholestérol? Heureusement qu'existe la table SICAL, et on en a déjà parlé, le site Open Food Fact, j'en ai parlé déjà aussi, si l'on cherche une information précise sur un aliment. Mais si l'on veut des conseils précis, c'est bien les professionnels de la diététique qui sont là pour nous donner des conseils sur les poids de chaque catégorie d'aliments à ne pas dépasser, sur les lipides cachés dans certains aliments, et surtout sur les équivalences pratiques entre produits. Et tout ça, Clara Samé apportera son éclairage de diététicienne dans la prochaine émission. N'oublions pas que Hippocrate, déjà cinq siècles avant Jésus-Christ, avait dit que il avait eu une belle intuition, que ton alimentation soit ta première médecine. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop complexe. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais peut-être que moi, dans la troisième émission, je parlerai des produits apéritifs et puis aussi l'écologie autour de tout ça. Hein, puisque dans les produits apéritifs, faire attention, il y a beaucoup de choses très caloriques et souvent très riches en lipides. Voilà, Sandra.
Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Frances. Et puis on vous retrouve donc dans 2 mois.
Au revoir.
Au revoir.